Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. La semaine dernière, nous avons étudié les prophéties de Jésus sur la fin des temps. Aujourd'hui, dans le chapitre 25, notre Seigneur nous appelle à être vigilants et bien préparés. Tout d'abord, il nous raconte deux paraboles que nous connaissons sans doute, la parabole des 10 vierges et celle des talents. Ensuite, le Christ nous explique ce qui se passera lors du jugement des individus, membres des nations, lors de son retour sur la terre. Ce jugement doit être distingué des autres jugements tels que le jugement des croyants et le jugement d'Israël. En tout, la Bible mentionne 7 jugements différents. Alors, afin que nous ne nous emmêlions pas les pinceaux, voici encore une fois la chronologie des grands événements à la fin des temps telle que je la comprends et telle que la comprennent aussi un grand nombre de théologiens. D'abord, enlèvement de l'Église. Ensuite, tribulation qui durera 7 ans selon le prophète Daniel. Ensuite, jugement des membres des nations du temps de la tribulation. Ensuite, royaume messianique qui durera 1000 ans. Dernière grande guerre, jugement devant le grand trône blanc, nouvelle terre et nouveaux cieux, vie éternelle. Le jugement dont nous parle donc Jésus dans ce chapitre 25 aura lieu lors de la seconde venue du Christ après la tribulation. Tous ceux qui seront morts avant la tribulation ne sont pas compris dans ce jugement. Dans les versets 31 à 46 que je vais vous lire maintenant, Jésus nous donne les critères du jugement. Ce ne sont pas les mêmes que lors d'autres jugements. Alors, écoutez bien. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondirent, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et n'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Autrefois, je croyais qu'il existait un seul jugement dernier et que celui-ci ressemblerait à celui dont nous venons de lire. Si c'était le cas, ça voudrait dire que les hommes seraient jugés selon leurs œuvres et non pas selon leur foi, ce qui est en contradiction directe avec de nombreux passages de la Bible. S'il suffisait de faire du social pour être sauvé, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir à notre place. Il s'agit des membres des nations, donc des personnes non-juives, qui auront vécu pendant la tribulation. Durant ce temps, il y aura, comme nous l'avons vu la semaine dernière, une persécution des juifs sans précédent. Même les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ne seront rien comparées à ce qui arrivera pendant la tribulation. C'est eux que Jésus, le juif, appelle « mes frères ». L'antisémitisme sera si abominable que toute personne qui osera aider une personne juive aura déjà fait preuve de son authentique foi en Christ, sinon elle n'y arriverait jamais. Rien que donner un verre d'eau à un juif sera récompensé. Je n'ose même pas imaginer à quel point ces pauvres gens seront persécutés. Ce jugement aura donc lieu après l'enlèvement des croyants et après la tribulation. Dans les deux paraboles que Jésus raconte dans ce chapitre, je ne vais m'attarder que sur celle des 10 vierges, puisque la signification rejoint celle de la parabole des talents, voire que nous devons être prêts à rencontrer le Christ. Je vous lis donc la parabole des 10 vierges, versets 1 à 13 de ce chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Pour comprendre cette parabole, nous devons connaître le rituel juif de mariage, puisque c'est l'image que Jésus utilise. D'abord, les parents du couple s'accordent sur le mariage et le père du fiancé paye la dot. Cela représente le plan de salut de Dieu et la mort du Christ comme dot, comme prix pour l'Église, son épouse. Cela a eu lieu il y a 2000 ans environ. Dans un deuxième temps, le fiancé vient chercher sa femme pour l'amener chez lui. Parfois, de nombreuses années s'écoulent entre le paiement de la dot et le mariage. C'est une image pour l'enlèvement. Après que le père du fiancé, c'est-à-dire Dieu, a payé la dot, le fils, donc Jésus, viendra chercher son épouse, qui est l'Église, voire l'ensemble des croyants. Petite parenthèse intéressante. En Pologne, le pays où j'habite, nous disons lorsqu'une femme se marie qu'elle suit son mari. Ça veut dire qu'elle se marie. On dit Bożena a suivi son mari, c'est-à-dire elle s'est mariée. Les Polonais qui ne connaissent plus ces rituels juifs considèrent cette expression comme très machiste. Mais c'est bien cette image de cette image qu'il s'agit. Après donc avoir ramené son épouse chez lui, commencent les festivités en famille et ensuite dans un plus grand cadre. Cette grande fête durera 7 jours. C'est l'image du festin céleste que Dieu prépare pour célébrer l'arrivée de l'Église au ciel. C'est magnifique, non? Dans la parabole des 10 vierges, il est question non pas du mariage en soi, mais bien des grandes festivités. Qui sera parmi les convives? Il y a celles qui sont prêtes, c'est-à-dire qui ont de l'huile, ce qui représente le Saint-Esprit, et celles qui ne le sont pas. Celles-ci n'ont jamais fait confiance en Christ. Le fait que l'époux dit à ces dernières « Je ne vous connais pas » confirme cette interprétation. Jamais Jésus ne dirait ces paroles aux enfants de Dieu, à ceux et à celles qui lui appartiennent et lui font confiance. Ce chapitre illustre l'importance d'être prêt pour une rencontre avec Jésus. Cette rencontre peut avoir lieu dans quelques années ou dans quelques minutes. C'est pourquoi il est si important de prendre à cœur les paroles de Jésus, de lui confier notre vie et de laisser nous guider. Quand j'étais adolescente, j'avais écrit sur ma guitare « Vis comme en mourant, tu aurais aimé avoir vécu ». C'est un peu pathétique, mais c'est quand même bien vrai. Un jour, il sera trop tard pour regretter. Alors retroussons nos manches et allons joyeusement de l'avant. Dieu est bon, osons lui faire confiance. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.